Europe Soir Weekend, Jacques Seret.
Ce sera peut-être la prochaine grande réforme sociétale. La législation sur la fin de vie pourrait évoluer dans les prochains mois. Emmanuel Macron a reçu cette semaine une délégation de la Conférence des évêques de France. Le clergé lui a redit son inquiétude sur le sujet. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, lui s'est déplacé jeudi en Belgique où il a été reçu par un médecin figure de l'euthanasie dans le pays. Dans le même temps, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, a dévoilé sa méthode pour lancer une convention citoyenne sur laquelle 150 Français seront tirés au sort dans les 15 prochains jours pour apporter leur contribution au débat. Tirage au sort qui sera pondéré en fonction du sexe, de l'âge, du lieu d'habitation, du métier, du niveau d'éducation. Notre invité ce soir est le député Renaissance de la Vienne, président de la Commission des lois. Bonsoir Sacha Ollier.
Bonsoir.
La mise en place de cette convention citoyenne, c'est la volonté d'Emmanuel Macron que vous soutenez. Une question simple, monsieur le député, quel est l'objectif ?
L'objectif, c'est d'avoir un débat national sur l'aide active à mourir et donc sur les modalités de la fin de vie. Pourquoi avoir un débat national ? Parce que, comme l'a révélé le Conseil consultatif national d'éthique, comité consultatif, pardon, on a une méconnaissance aujourd'hui de ce qui existe, de ce qu'est la loi Claeys-Leonetti, et qui organise les soins palliatifs, en tout cas la sédation profonde pour les personnes qui souffrent. D'abord parce que les services de soins palliatifs sont insuffisamment déployés sur le territoire, parce qu'ils sont aussi méconnus par nos concitoyens qui ne prennent pas suffisamment de directives anticipées. Et donc on a besoin d'un débat national pour créer un consensus autour d'un texte et autour d'une évolution législative sur l'aide active à mourir.
Alors Sacha Ollier, concernant la méthode, on a appris cette semaine que la question qui sera posée à ces citoyens, et je vous la pose, le cadre de l'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations individuelles rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits ? Est-ce que vous approuvez cette formulation ?
Oui, je pense que c'est la bonne question, parce qu'en réalité, régir le droit à mourir, c'est organiser une rencontre que personne n'a véritablement envie de faire. Sauf que, d'une certaine façon, gouverner, c'est prévoir. Et on a aujourd'hui, et vous le mentionniez tout à l'heure avec la visite du porte-parole du gouvernement en Belgique, on a aujourd'hui des pays frontaliers qui organisent ce droit, qui le réglementent. On a des évolutions qui sont sollicitées, soit au Parlement avec des propositions de loi examinées déjà l'année dernière, avec des Français qui se disent largement prêts à cette évolution. Et donc maintenant, il faut pouvoir en connaître les modalités. Et ces modalités, finalement, elles arrivent à la rencontre de quand même beaucoup de revendications, de préoccupations, des préoccupations sociétales, la société civile, des préoccupations politiques et des préoccupations qui peuvent aussi être religieuses, parce que dans l'administration de la mort, si vous me permettez cette expression, il y a une rencontre de la puissance publique, de l'état civil, de celui qui reconnaît les citoyens et de leur disparition, et puis il y a une rencontre aussi du spirituel qui organise les obsèques, le transfert vers l'après, voire même jusqu'au service public des défunts, puisque c'est les cimetières ou tout ce qui concerne les crémations. Donc ça pose beaucoup de questions et qui rencontrent énormément d'acteurs qui ont tous leur mot à dire sur ce débat de la fin de vie.
Pour revenir sur cette formulation, le débat n'a pas encore commencé, mais il y a déjà quelques réticences sur cette formulation. Elle ne fait pas l'unanimité, elle soulève quelques interrogations. On pouvait lire aujourd'hui, par exemple, dans le Figaro, Claire Fourcade, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui regrette que cette formulation oriente la réflexion sur des situations individuelles, alors que l'enjeu de ce débat, c'est de fixer un cadre collectif.
Mais que les médecins aient une prévention et qu'ils se disent « nous, on est là pour soigner les hommes et les femmes et pas pour les accompagner vers la mort », ça peut se comprendre, ça peut s'entendre. Néanmoins, il y a aujourd'hui des personnes qui, y compris médiatisent leur décès, qui par ailleurs sont dans des souffrances qui sont indicibles, inimaginables, en tout cas qui sont incomparables et qui peuvent pas faire l'objet de soins. Ce qu'on appelle les souffrances qui sont incompressibles, irréfragables. Et de ce point de vue-là, on a des personnes qui, y compris, quittent notre pays pour pouvoir mourir. Donc, ce qui veut dire que ça pose plusieurs problèmes. D'abord, ça veut dire que on ne sait pas bien mourir en France. D'autres disent on meurt mal en France, et on ne réfléchit à ces questions-là que sous le coup de la controverse. Rappelez-vous l'affaire Vincent Imbert. Finalement, profitons aussi du moment où on a du temps devant nous, on peut réunir tout le monde autour d'une convention nationale, d'un débat public dans lequel on pose le cadre de dire quand est-ce que on peut demander le droit actif à mourir, quand est-ce que on y est autorisé et quand est-ce que les médecins peuvent prodiguer cet acte qui est un acte tout sauf banal.
Mais en quoi, selon vous, aujourd'hui, la loi Claeys-Leonetti ne suffit plus? Je rappelle ce qu'elle permet. Elle permet une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour des malades en phase terminale et en très grande souffrance dont le pronostic vital est engagé à court terme. Aujourd'hui, cette loi est insuffisante, selon vous?
C'est d'abord la conclusion d'un de ses auteurs, le député maire Alain Claeys, qui est d'ailleurs un des rédacteurs de l'avis du comité consultatif national d'éthique, qui pointe les difficultés. Alors, à la fois les difficultés dans l'application de sa loi, puisque je vous ai dit que les services de soins palliatifs étaient parfois méconnus ou sous-déployés, et puis les difficultés par rapport à l'absence de solution qu'elle peut représenter pour des personnes dont la fin est absolument certaine et dont les souffrances sont devenues insupportables, et pour lesquelles ces douleurs réfractaires, ces douleurs qu'on ne peut pas soulager par des médicaments, et ben fait que ils souhaitent pouvoir mettre fin à leur jour. Le but n'est pas de dire que on va autoriser le droit de mourir dans n'importe quelle condition, au tout venant. On sait qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Je vous ai parlé de questions philosophiques ou religieuses. Je peux vous parler aussi de l'expression de la volonté. Puisque l'expression de la volonté, elle peut être simple pour des personnes qui peuvent le dire. Elle peut être beaucoup plus compliquée pour des personnes qui sont dépourvues de la parole, ou en tout cas incapables d'exprimer clairement une volonté parce qu'empêchée. Et donc, dans toutes ces solutions-là, on a bien vu, et le droit nous a montré avec des affaires rendues médiatiques, que on était parfois démunis. Et que finalement le débat il avait lieu dans la société, donc il devait aussi avoir lieu chez les personnes qui décident et qui sont censées représenter et donc légiférer de ce point de vue-là.
Mais pourquoi ne pas vouloir commencer maintenant par appliquer pleinement cette loi en donnant notamment plus de moyens aux soins palliatifs? C'est ce qu'ils demandent aujourd'hui.
Plus de moyens aux soins palliatifs, c'est pas orthogonal, en tout cas c'est pas différent d'une active à mourir de ce point de vue-là. C'est pas parce qu'on va décider qu'on crée un nouveau droit que l'intégralité des personnes vont y avoir recours. Il y a une grande cyclotimie des patients aussi qui souffrent et qui peuvent exprimer une volonté d'en finir avant de se rétracter. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un encadrement. Mais le fait qu'on ait un nouveau droit ne veut pas dire qu'il faut interrompre les droits dont on bénéficie aujourd'hui. Au contraire, c'est complémentaire et c'est un déploiement. Et comme on sait que dans certaines situations ultimes, extrêmes, ou dans des résolutions qui sont totales de la part de certains patients qui ne supportent plus leur situation et qui veulent en finir, créer ce nouveau droit, c'est pas pour autant empêcher ou annihiler ou revenir sur ce qui est la sédation profonde et finalement les soins palliatifs. L'un va avec l'autre et de façon totalement complémentaire. Et c'est ce que démontrera certainement le débat. C'est de dire que on aura une lumière qui sera beaucoup plus puissante sur des droits qui sont aussi aujourd'hui méconnus.
Alors, en parallèle de la Convention citoyenne, l'Assemblée nationale va se saisir, va y avoir une mission d'évaluation sur cette question de la fin de vie en novembre. Quel doit être le rôle des députés en plus de celui des citoyens aujourd'hui?
Les députés ne sont pas des citoyens en plus, c'est des citoyens qui ont un mandat représentatif pour représenter les intérêts de ceux qui les ont élus.
Donc, oui, mais en plus de la Convention citoyenne.
Il y a deux missions qui sont tout à fait différentes entre la Convention citoyenne et les parlementaires. La Convention citoyenne, c'est de débattre d'un enjeu de société, de faire naître un consensus qui puisse permettre d'aboutir à une loi. Le rôle des députés, c'est un rôle d'évaluation en disant, voilà, on en est à tel point, voilà les limites qu'on touche du doigt, que je vous ai décrites, hein, sur les cas médiatiques ou sur les personnes qui ne supportent plus leur situation, et de dire, voilà toutes les limites qu'on a trouvées. Donc ce sera un travail supplémentaire, complémentaire, c'est dans la forme de connaissance du public, en plus de l'avis médical qui est exprimé par le comité consultatif, en plus de l'avis législatif qui est exprimé par celui qui contrôle l'application des lois, donc le législateur, eh bien on aura l'avis des citoyens au travers du débat national. Et après tout ce travail-là, on sera évidemment suffisamment éclairé pour faire évoluer ou non la législation.
Comment expliquez-vous aujourd'hui que votre famille politique, Renaissance, soit quasiment unanime sur ce sujet?
Parce que quelque part, il s'agit de créer un nouveau droit et de donner à chacun le droit de choisir. Son destin jusqu'au bout, y compris le droit de choisir de mourir parce que sa situation n'est plus supportable. Ça nécessite aussi des encadrements, et ça je pense que tout le monde est d'accord aussi dans la majorité pour dire que on peut pas faire ça n'importe comment et que ça peut pas être l'exclusion sociale, ça peut pas être le mal-être ou le malaise d'une personne qui conduise à ce type d'action irréparable. Mais il y a une vraie volonté de dire que, quelque part, le droit des individus, le droit des personnes, la liberté, elle peut conduire aussi les gens à choisir pour eux-mêmes la façon dont ils veulent partir. Je pense que c'est important et que philosophiquement, ça fait partie de notre doctrine politique.
Alors, Sacha Houlié, il y a la Convention citoyenne, on l'a dit, il y a la mission d'évaluation avec les parlementaires, mais il y a aussi et surtout la position d'Emmanuel Macron. Le 2 septembre dernier, lors de la remise de la Grand Croix de la Légion d'honneur à Lynn Renault, qui, on le sait, milite pour légaliser l'euthanasie en France, le président a déclaré ceci: « Le droit à mourir dans la dignité est un combat qui nous oblige, c'est le moment de le faire, nous le ferons ». Est-ce que les dés ne sont pas pipés d'avance ?
Non, parce que pour le coup, je pense qu'il y a toute une série de réticences, de réserves, de prévention qui pourront éclairer le débat public et pour bien montrer que les choses sont balisées. Si on passait à l'Assemblée directement maintenant, dans le cadre des périodes qui sont réservées aux parlementaires, je peux vous garantir que les choses seraient pipées d'avance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'Assemblée, comme dans la population globale, tout le monde est d'accord pour créer ce droit-là. Après, les modalités, elles sont forcément différentes. Et donc, c'est aussi pour dire au public, voilà la finalité de l'action. Et après, regardons tout ce qui va les enserrer, qui vont être finalement des garanties. Donc, de ce point de vue-là, je pense que pour que ce droit soit bien compris, pour qu'il soit accepté, pour qu'il fasse l'objet d'aucune contestation ou aucun mouvement qui soit vraiment important de réaction, eh bien, on a besoin de ce temps-là et on a besoin de ce débat public national. Par ailleurs, c'est aussi des droits qui sont évolutifs. Et qui font que c'est le consensus national qui fait avancer le débat dans la société.
Mais si la Convention citoyenne dit non, imaginons, à la légalisation de l'aide à mourir, que ferez-vous ? Vous entendrez ce message ou pas ? Est-ce que vous irez de toute façon dans le sens voulu aujourd'hui par Emmanuel Macron ?
Bah, d'abord, moi je vais pas préempter un débat qui est même pas encore lancé, je peux pas vous dire ce que sera notre décision finale. Il y a une volonté politique globale, générale, qui transcende celui de la position de la majorité et qui est une position qui est exprimée très 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 fortement dans le cadre de sondages répétés dans la population. Donc si la Convention citoyenne exprime une autre position, d'abord ce serait surprenant. S'en interrogerait par rapport à ce qu'on a mesuré dans des enquêtes d'opinion. Et ensuite, il faudrait chercher à savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que la Convention citoyenne serait opposée à cette décision?
Dans ce cas-là, ça bloquerait le processus.
Il y aurait une décision qui serait politique. Il y aurait une décision qui serait politique. Et c'est là où il y a une limite entre la démocratie participative et la démocratie représentative. Dans la démocratie participative, vous faites émerger une solution. C'est le but de la Convention citoyenne. Et dans la démocratie représentative, ce qui est le Parlement, vous prenez une décision et vous assumez politiquement la décision que vous avez prise et vous l'assumez très simplement par le vote et par l'élection devant le suffrage universel. Donc, au suffrage universel, pardon. Donc, de ce
Donc,
point de vue-là...
Aujourd'hui, Renaissance est prêt à passer outre la potentielle
non,
décision non, de la Convention citoyenne ?
Non, nous on attend avec impatience la décision de la Convention citoyenne. Et par ailleurs, je peux pas vous dire quelle sera la position de mon groupe dans un an après un débat national qui aura quand même éclairé toute la population sur ce qui existe et sur ce qui pourrait évoluer. Donc aujourd'hui, je suis incapable de vous dire ce qui va se passer dans un an. Par contre, je suis assez impatient de vous dire que je suis impatient que ce débat ait lieu et de connaître la position de tous mes concitoyens sur cette question.
Mais écoutez, merci beaucoup Sacha Houlié, c'est un plaisir d'échanger
merci
avec vous ce soir. Merci beaucoup.